L'intérêt de la Première Guerre mondiale dans cette pathologie, dans ce qui est considéré maintenant comme une maladie à part entière, c'est que c'est pendant cette guerre qu'on a découvert ce qu'était le choc traumatique, le stress traumatique de la guerre. Et c'est vraiment durant ce conflit très meurtrier, très traumatisant justement, très stressant pour les soldats confinés dans les tranchées, que sont apparus des signes qui n'étonnent plus personne aujourd'hui dans la médecine militaire, mais qui à l'époque étaient totalement nouveaux et ont déconcerté les médecins qui devaient prendre en charge ces soldats. Et c'est vrai que l'ouverture ces derniers temps de faciliter des services d'archives militaires et des archives médicales également, ça permet d'accéder à des dossiers de patients, ça permet d'accéder à des histoires de médecins aussi et d'essayer de mieux comprendre ce qu'ont été ces psychonévroses de guerre. Et c'est un travail d'une démarche d'historien de la médecine pour aller remonter un petit peu au cœur de cette Première Guerre mondiale pour aborder ce problème.
Parce qu'il y a un double traumatisme, si j'ose dire. Le premier étant la guerre, la situation de guerre qui humainement est déjà un traumatisme. Et puis aussi, il y a eu les soldats dont on ne pouvait pas imaginer le traumatisme. On les envoyait à la guerre, mais d'une manière un petit peu particulière quand même.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le traumatisme qui a concerné tout le monde, les populations civiles, les populations qui ont été déplacées, les populations frontalières aussi, hein, puisque la Suisse n'a pas échappé aussi, en particulier en Ajoie, à ce genre de problème. Ça a concerné tout le monde. Et en plus de ça, bien, il y a eu les soldats envoyés au front, essentiellement démobilisés, puisque pratiquement tous les pays belligérants étaient sous le régime de la conscription, à l'exception de l'Angleterre entre 14 et 16, mais l'Angleterre y est venue après 1916. Et donc on n'a pas demandé leur avis aux soldats, c'était la mobilisation. Et donc ils se sont retrouvés avec ce stress supplémentaire. Donc il y a le stress de la population civile qui a concerné tout le monde et le stress du guerrier, celui qui s'est retrouvé dans la tranchée, au front, et avec la vision, la situation d'horreur qu'on connaît maintenant par des images d'époque et par les photographies que tout le monde a vues.
Vous évoquez tout de même des méthodes douloureuses, notamment l'utilisation du courant électrique.
Voilà, c'est-à-dire que les médecins militaires qui ont vu les premiers ce genre de problème avec des expressions cliniques très étonnantes, des signes qu'ils n'avaient jamais vus, des soldats qui se retrouvaient pliés en deux, sans pouvoir se relever, c'est ce qu'on appelait la comptocormie, des soldats qui devenaient amnésiques, qui n'avaient plus de mémoire, des soldats qui étaient sourds, alors que, encore une fois, dans ce stress de guerre, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de blessure, le cerveau fonctionne normalement, c'est vraiment quelque chose qui est totalement induit par ce stress de guerre. Donc les médecins qui se sont retrouvés face à cette situation inédite, eh bien, ont eu des réactions différentes. Soit, et ils ont essayé de comprendre, et ça c'était plus du côté psychiatrique que ça s'est tourné, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait avec une certaine empathie, essayer de voir pourquoi il y avait tous ces signes et pourquoi les soldats exprimaient ça. Et puis, à l'inverse, il y avait des médecins qui ont fait preuve de beaucoup moins d'empathie, voire d'une espèce de patriotisme mal placé, et qui ont considéré ces soldats traumatisés psychiques avec leurs signes étonnants comme des simulateurs, voire comme des déserteurs. Et ces soldats se sont retrouvés soit devant des conseils de guerre, ont été jugés, pour certains même fusillés, il y a quelques affaires célèbres, soit les médecins un peu malveillants ont essayé de les remonter vers le front en essayant de les stimuler, en particulier effectivement par le courant électrique, par ce fameux torpillage où les soldats étaient électrisés de manière assez violente. Et là, il était considéré que la douleur induite par le courant électrique était une preuve d'efficacité de cette technique. Et ça, évidemment, aujourd'hui, on a du mal à concevoir ça et à prendre en compte ce type de situation et ce type de comportement par rapport à des médecins. Mais ce qui est bien important à comprendre aussi, c'est qu'on est un siècle plus tard dans une société qui est complètement différente et il faut faire attention aux jugements un petit peu hâtifs sur ces comportements qui néanmoins sont des comportements déviants, médicaux déviants, mais qu'il est un peu facile de juger aujourd'hui avec nos critères actuels de société et qu'à l'époque choquait beaucoup moins qu'il ne choque aujourd'hui.
Mais des traitements expérimentaux, il y en a eu non seulement dans la Première Guerre, mais également dans la Deuxième, dans la guerre du Vietnam, et puis également dans les guerres des Balkans. On peut bien imaginer que des traitements, ça a toujours existé.
Absolument. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que les soldats traumatisés de guerre, donc victimes de ce qu'on appelle maintenant le choc traumatique de guerre, ou le post-traumatic stress disorder, puisque maintenant c'est bien authentifié ce concept. Et c'est grâce aussi à tout ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale qu'on le connaît. Paradoxalement, dans les guerres suivantes, et même par rapport à la médecine nazie, où on connaît les abus, les dérives, et tout ce qui est éthiquement inconcevable a été fait par la médecine nazie, bien paradoxalement, il y a eu moins d'agressivité dans les traitements qui ont été tentés chez les traumatisés de guerre dans les guerres suivantes que dans la Première Guerre mondiale. Parce qu'avec le temps qui passait, et ce concept médical de choc traumatique avait fait son chemin. Et les médecins nazis, par exemple, avaient connaissance de ce choc traumatique, y compris chez les soldats alliés, et n'ont pas eu de dérive expérimentale aussi importante que pendant la Première Guerre mondiale.